Bonjour, au micro Idrissa Sidoulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, la mort d'un autre Africain-Américain, Rashad Brooks, abattu vendredi soir par un policier blanc lors de son arrestation à Atlanta en Géorgie, a ravivé la colère des manifestants et la chef de la police d'Atlanta a démissionné et le policier responsable a été limogé. Samedi, des centaines de manifestants ont bloqué une autoroute dans la capitale de l'État et incendié un restaurant près duquel Rashad Brooks a été mortellement blessé par un policier. Des dizaines de personnes ont été arrêtées selon CNN. Aux États-Unis, comme dans d'autres pays, poursuite hier de la mobilisation contre les violences policières et le racisme suite au meurtre fin mai de George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. En Europe, au lendemain de manifestations contre le racisme en France, en Grande-Bretagne ou en Suisse, ce sont les Allemands qui sont descendus dans la rue dimanche, formant notamment une chaîne humaine à Berlin. Pour le président russe Vladimir Poutine, les manifestations aux États-Unis sont l'expression de profondes crises internes, mais elle ne devrait pas se transformer en pagaille et en émeute. En France, Human Rights Watch a appelé le président Emmanuel Macron à annoncer des réformes concrètes afin de couper court au contrôle d'identité abusif et discriminatoire et au racisme au sein des forces de l'ordre. La Chine a annoncé aujourd'hui des dizaines de nouveaux cas de COVID-19, pour le deuxième jour consécutif, et le placement en quarantaine de 10 nouveaux quartiers de Pékin, nourrissant la peur d'une nouvelle vague, tandis qu'en Europe, l'heure est à l'ouverture des frontières. Pour leur part, les États-Unis ont enregistré 382 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, soit le bilan journalier le plus faible depuis plusieurs semaines, selon l'université Johns Hopkins. On déplore un total de 115 729 morts pour plus de 2 millions de cas dans le pays, qui en revanche continue d'enregistrer quelque 20 000 nouveaux cas chaque jour et peine à descendre de ce plateau car une partie du pays a pris le relais de l'autre. Le Maroc a annoncé hier l'envoi d'une aide médicale comprenant près de 8 millions de masques sanitaires à une quinzaine de pays africains pour les aider à lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus. L'aide inclut notamment près de 8 millions de masques, 38 000 litres de gel hydroalcoolique ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine, un médicament utilisé au Maroc et dans certains pays pour aider les malades de la pandémie. La maladie en Algérie n'empêche pas les autorités de poursuivre et de condamner militants du Hirak, opposants politiques et journalistes et internautes. Trois nouveaux militants connus du mouvement de contestation anti-régime ont été interpellés dimanche. Hakim Haddad, Zoher Kedam et Fodil Boumala, qui ont déjà été arrêtés précédemment, a appris l'AFP auprès d'ONG de défense des droits de l'homme et des prisonniers. Le motif exact de ces interpellations n'est pas connu. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tendu la main hier soir à la coalition de chefs religieux, d'hommes politiques et de la société civile qui contestent son pouvoir dans un pays confronté en outre aux attaques djihadistes. J'y reviendrai dans un instant avec notre correspondant Kassim Traoré. Mali toujours, l'ONU a annoncé hier que des hommes armés ont tué deux casques bleus de la MINUSMA samedi soir dans le nord-ouest du pays lorsque leur convoi a été attaqué entre Tessalit et Gao. Selon le communiqué du secrétaire général Antonio Guterres, les soldats étaient d'origine égyptienne. L'armée turque a lancé dans la nuit de dimanche à lundi des frappes aériennes sur des bases des rebelles kurdes de Turquie dans le nord de l'Irak. Les raids ont visé, selon le ministère de la Défense, des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan. La suite de nos informations. Au Nigeria, au moins 20 soldats et plus de 40 civils ont été tués lors de deux attaques dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Des habitants affirment que des militants munis d'armes lourdes, dont des lance-roquettes, sont arrivés dans la ville de Monguno samedi et ont attaqué les forces gouvernementales déployées sur place. Des détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Les attaques dans les régions de Monguno et Ganzai sont intervenues quelques jours seulement après que les militants ont tué au moins 81 personnes lors d'un raid dans un village de Goubiou dans la même région. Les trois attaques ont été revendiquées par un groupe séfisant appelé l'État islamique en Afrique de l'Ouest. À Monguno, selon des témoins, les assaillants ont incendié un centre humanitaire des Nations Unies et le poste de police de la localité. Dans la ville de Ganzai et d'autres localités visées par les combattants, certains sont arrivés à moto, d'autres en camionnette, tuant plus de 40 personnes. Les informations reçues des résidents de la ville indiquent que des centaines de civils ont été blessés et se trouvent dans le centre de santé de la ville où ils reçoivent des soins. Peu avant l'attaque, les militants avaient distribué des messages aux habitants en langue Hausa, les avertissant de ne pas travailler avec les organisations humanitaires et l'armée déployée à Monguno, une plaque tournante des organisations internationales non gouvernementales. Ces informations ne sont pas confirmées des sources onusiennes. L'armée nigériane affirme avoir tué un grand nombre d'assaillants et détruit du matériel appartenant aux militants sans donner plus de précisions. Dans un communiqué, la hiérarchie militaire se félicite de la résilience et de la réaction de ses hommes sur le terrain.
Au Mali, suite aux récents événements qui se sont déroulés dans le pays, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé à la nation dans un discours sur la télévision nationale. Il a dit avoir entendu les colères et cris de ses compatriotes, ainsi que les revendications et interpellations. Le président Ibeka doit rencontrer bientôt les responsables du mouvement du 5 juin. Kassim Traoré.
Chaque Malien qui souffre ou qui manifeste m'interpelle et mérite mon attention, car ma mission est de servir le Mali. C'est par ces propos que le président Ibeka a commencé son discours.
Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue, car il nous faut rester ensemble dans ce grand dessein. L'exceptionnelle gravité du moment commande que nous nous serrions le coude, que nous soyons plus solidaires que jamais. Car après tout, ce que ce pays nous demande, c'est de donner son importance à chaque Malien, afin de nous hisser ensemble à la hauteur de l'histoire.
Les doléances des manifestants seront prises en compte et le tout doit se faire dans l'application des recommandations du dialogue national tenu en décembre 2019. Maître Chokmar Konare, avocat.
Je considère qu'il s'agit d'un discours d'apaisement. Le président promet de prendre en charge l'ensemble des doléances socio-économiques présentées par le mouvement du 5 juin. Il veut parler de l'école, de la sécurité, de la santé et de beaucoup d'autres choses. Sur le plan politique, il ne fait pas d'annonce particulière. Il dit qu'il va recevoir le mouvement du 5 juin.
Et c'est le mardi prochain que cette rencontre aura lieu au palais de Koulouba, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le leader de la République autoproclamée du Somaliland a défendu hier son droit à l'indépendance lors d'une rencontre avec les dirigeants de la Somalie à Djibouti. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a participé à la rencontre présidée par le président djiboutien Ismaël Omar Guelle. Nathalie Barge.
Le Somaliland reste engagé à une coexistence pacifique avec la Somalie, a déclaré dans son discours Moussa Biye, réclamant un agenda qui réponde aux problèmes profonds du conflit. De son côté, le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a déclaré être engagé à faire tous les efforts pour parvenir à des pourparlers fructueux avec le Somaliland. Cette rencontre était la première depuis une réunion informelle en février sous l'égide du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Un précédent dialogue avait échoué en 2015. Par ailleurs, le gouvernement somalien a reconnu dimanche Ahmed Madob comme leader par intérim pour 2 ans de la région semi-autonome du Jubaland. Un geste aussitôt rejeté par les intéressés, faisant état d'un mandat de 4 ans selon leur constitution.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le HCR a lancé un appel de fonds de 186 millions de dollars pour financer ses opérations dans la région du centre du Sahel et apporter une aide vitale à plus de 3 millions de réfugiés, aux déplacés internes, rapatriés et communautés d'accueil. L'objectif, entre autres, est de fournir plus d'abris pour décongestionner les sites surpeuplés et distribuer des articles de première nécessité, soutenir l'éducation et l'apprentissage à distance. Le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté devrait monter jusqu'à 60 millions cette année en raison du Covid-19, affirme l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail. L'OIT prévient qu'il faut venir en aide à ces familles afin qu'elles ne recourent pas au travail des enfants. La Banque mondiale affirme que l'économie du monde se contractera de 5,2% à cause du coronavirus, qui est la crise la plus répandue depuis 150 ans. Pour terminer, le cuivre a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 3 mois. À Londres, sa tonne pour livraison dans 3 mois s'échangeait à 5 808 dollars vendredi contre 5 690 dollars le vendredi précédent. Les cours du café, par contre, étaient en recul. À Londres, la tonne de Robusta pour livraison en septembre valait 1238 dollars contre 1245 dollars 7 jours plus tôt. À New York, la livre d'Arabica pour livraison en juillet valait 97,10 cents contre 98,90 cents 7 jours auparavant.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Suspendu depuis mars pour cause de coronavirus, la Liga espagnole a fait son grand retour par la 28e journée.
Oui, et le FC Barcelone a remporté son match de reprise à Mallorca, score 4-0. Les Catalans gagnent 2 points d'avance sur le Real Madrid, vainqueur 3-1 d'Eibar. En ouverture de cette 28e journée, le FC Séville remporte le derby d'Andalou 2-0 face au Betis Séville et gagne sa 3e place. De son côté, l'Atlético Madrid a concédé le nul 1-1 face à Bilbao et reste à la 6e place.
En Allemagne, on jouait la 31e journée du championnat.
Et privé de Thomas Müller et Robert Lewandowski, le Bayern de Munich s'est rapproché d'un 30e titre de champion après son succès contre le Borussia Mönchengladbach, score 2-1. Il conserve 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund à 3 journées de la fin du championnat. En cas de succès sur le terrain du Werder de Brême lors de la prochaine journée, les Bavarois seront officiellement champions d'Allemagne.
Le bureau du conseil de la FIFA, Élisée, a apporté des amendements temporaires pour le mercato d'été sur la situation des joueurs.
Tout à fait Idrissa, les joueurs pourront être enregistrés auprès d'un maximum de 3 clubs pendant une même saison. Quant aux fédérations membres, elles sont autorisées à débuter le mercato d'été avant la fin de l'exercice sportif en cours.
Pour terminer, athlétisme avec le procès de Lamine Diack jugé à Paris pour corruption.
Oui, des aveux et des démentis pour l'ancien patron de l'athlétisme mondial. Il reconnaît avoir retardé des sanctions contre des athlètes russes topés en échange de contrats de sponsoring. Et il se justifie en disant qu'il l'a fait pour sauver les finances de la fédération. Le Sénégalais a cependant nié avoir touché de l'argent en échange.
Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le nombre de cas de coronavirus a considérablement baissé ces dernières semaines. Cependant, les spécialistes de la santé estiment qu'il faut rester prudent, car aucune étude de prévalence ne montre que la pandémie est terminée. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le coronavirus est-il en train d'être éradiqué au Burkina Faso? C'est ce qui semble apparaître dans les chiffres publiés chaque jour depuis 4 semaines.
Depuis 4 semaines successives, les cas effectivement continuent à diminuer.
Docteur Brice Bikaba est le coordonnateur du comité sectoriel santé.
Il y a 3 semaines, nous avions 39 cas cumulés. La semaine qui a suivi, la semaine 23, nous avions 6 cas cumulés. Et la semaine qui nous concerne, nous avons eu 2 cas cumulés. Le taux de positivité donc est de 9,8%, avec donc une diminution donc la proportion du taux de positivité qui est passé donc de près de 30 à 40% aujourd'hui à moins de 5% parfois.
C'est donc une lueur d'espoir et au sein de la population. Plusieurs facteurs font que les mesures barrières ne sont plus respectées.
Les uns et les autres ont fini par se poser des questions sur la véracité des tests, sur même la véracité de l'existence même de la maladie au sein de notre pays.
Les gens ont baissé la garde parce que effectivement nous constatons que même dans les marchés, dans les lieux de débit de boissons, les mesures barrières ne sont plus respectées. Le plus alarmant est que les gens même ont recommencé même à se saluer.
Docteur Moumouni Niaouné, spécialiste en santé sociale, communautaire et comportementale, essaie d'expliquer pourquoi cette baisse du nombre de cas du coronavirus.
On aurait eu tendance à dire que c'est parce que les gens ne vont pas dans les centres de santé ou que les gens n'appellent pas pour signaler symptômes que les chiffres baissent. Mais si tel était le cas, on aurait peut-être constaté une certaine mortalité, forte mortalité au niveau des communautés qui ne s'expliquerait pas par d'autres maladies et qui présenteraient des signes similaires à Covid et qui auraient pu attirer l'attention des professionnels de santé sur justement cette situation. Mais comme on ne le voit pas, on peut effectivement de façon légitime penser que les réponses données à l'épidémie marchent et que la maladie est en train de reculer au niveau de notre pays. Mais pour connaître réellement l'état de la maladie au niveau de notre pays, il est indispensable de faire une étude de prévalence. Mais déjà, il faut féliciter l'équipe de Riposte, il faut féliciter tous ceux qui sont engagés en première ligne.
Durant les 4 dernières semaines, aucun décès n'a été enregistré. Le pic des décès a été noté à la semaine 15, la semaine du 6 au 12 avril, avec 9 décès, selon le comité de Riposte. En 3 mois, le Burkina a enregistré 894 cas de coronavirus avec 53 décès. À la date du 14 juin, le Burkina Faso compte 37 cas actifs, l'un des plus bas taux de prévalence dans la région. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Niger, des élections générales sont prévues à la fin de l'année, mais du fait de la pandémie de coronavirus, certaines risquent d'être reportées. C'est entre autres ce qui ressort d'une rencontre entre partis politiques et CENI le week-end dernier. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Au cours de cette rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait le point du processus électoral aux acteurs politiques. Il ressort de l'exposé fait par Maître Issa Kassouna que l'enrôlement des électeurs pour l'établissement du fichier électoral biométrique a pris fin, mais qu'il manquera du temps pour rendre le dit fichier à temps pour les premières élections, les locales prévues au mois de novembre 2020.
La CENI s'est rendue compte qu'elle ne peut pas rendre ce fichier après les différents calculs 3 mois avant le jour du scrutin, avise, vous informe, recueille votre avis
le scrutin a lieu en novembre, devrait avoir lieu en novembre. Mais déjà, en venant vous en parler au mois de juin, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. En termes de consultation, on ne peut pas lui reprocher de ne pas partager les soucis. Par contre, elle est prête à étudier et elle est en train de le faire pour rechercher les meilleurs moyens techniques pour rattraper ce retard.
C'est dire que l'on est parti pour un report, ce qui n'est pas du goût des partis politiques, même ceux de la majorité. Ousseyni Salatou est membre d'une des alliances qui soutient le président Issoufou Mahamadou.
Il y a eu dans ce pays 9 mois, 10 mois, il y a eu des élections. Vous avez eu 3 ans, sous chaque des élections, on va entrer dans la 4e année. On vient nous dire à la fin qu'il n'y a pas des élections locales, non. Nous avons voulu qu'à travers le local, qu'on puisse juger de la fiabilité du système. Ce qui n'est pas possible. C'est pourquoi, moi, le Covid, là, je savais que vous allez saisir ça comme échappatoire. Mais c'est de soi, vous allez continuer à descendre pendant le Covid. Nous voulons des élections locales. Et nous faisons la proposition qu'elle ait de faire ces élections locales-là au second tour. Nous disons qu'il est possible de faire le recensement au niveau de la diaspora et de faire des élections partielles. Ça a été prévu, ça a été fait dans le temps. Nous disons qu'il faut auditer le fichier. Si nous sommes véritablement enclins à aller vers la paix et la stabilité de ce pays.
La réunion a encore été boudée par les partis politiques de l'opposition qui recusent la CENI et exigent un dialogue national élargi aux forces vives de la nation pour un processus électoral plus consensuel. À cette autre absence de l'opposition, le Premier ministre, président du Conseil national de dialogue politique, a réagi en ces termes.
Est-ce qu'on peut organiser des élections sans l'opposition? Il vaut mieux aussi ajouter une deuxième question. Est-ce qu'on peut forcer l'opposition à participer à une élection dont elle ne veut pas? On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. J'ai beaucoup espéré, mais je suis en train d'arriver à la conclusion que je ne serai pas capable d'amener l'opposition à nous rejoindre et rester avec nous autour d'une table. Mais notre main reste tendue jusqu'à la fin.
L'issue de ce processus électoral verra la première transition pacifique du pouvoir entre deux présidents démocratiquement élus au Niger, pays à grande tradition de coup d'état militaire. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
Au Mali, on attend toujours la formation du gouvernement Boubou Cissé II. Ce dernier, qui a démissionné la semaine dernière, a été immédiatement reconduit dans ses fonctions. De son côté, le mouvement du 5 juin, rassemblement de partis politiques et d'associations, appelle à une nouvelle manifestation le vendredi, toujours pour exiger la démission du président Ibeka et de son régime. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
La direction politique du mouvement du 5 juin, un rassemblement d'associations et de partis politiques dénommé M5-RFP, appelle ses militants à une nouvelle manifestation. Choguel Koukala Maïga est membre du directoire politique du M5-RFP.
Que l'ensemble des forces réunies a décidé de donner une date pour la prochaine sortie. Et cette sortie va consacrer ce qu'il faut réaliser, la démission du président de la République. Et son, cette date a été convenue d'un commun d'accord, rassemblement de tous les Maliens à la place de l'indépendance le vendredi 19 juin à partir de 14h.
Après la plateforme Anko Malidron, un syndicat de la police, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM, les syndicats des DAF, DFM, DRH et CPS adhèrent au M5-RFP et exigent la démission de Ibeka et son régime. Modibo Sidibé, ancien Premier ministre, membre du directoire politique du M5-RFP.
Il était temps que nous sommes là parce que c'est ce que nous avons toujours voulu. C'est notre combat. J'en suis convaincu, nous sommes déterminés. Mais on peut être déterminé et ne pas avoir la bonne méthode, ne pas avoir la bonne démarche. Personne ne laissera ce pays se fracasser. Je dis bien personne. Et il ne se fracassera pas.
Certains Bamako trouvent que le président Ibeka doit tenir compte des exigences du moment. Massiré Diop, journaliste.
Parce que le contexte n'est plus le même. Car c'est l'une des rares fois où l'État a pu être ébranlé d'une certaine manière. Et je pense que c'est extrêmement important que le président puisse comprendre ses mesures. message que ces manifestants ont envoyé. Mais c'est par rapport à un malaise social qui est là. C'est par rapport à beaucoup de choses que ces gens sont sortis. Donc aujourd'hui, si le président veut en tout cas finir son mandat dans la quiétude, rassembler tous les Maliens, c'est le moment ou jamais.
Pour ceux qui aident la formation du gouvernement, il ne pourra se faire à la hâte, estime Makan Kone, chroniqueur politique.
Mais je me dis, un gouvernement, surtout aujourd'hui, un gouvernement doit tenir compte de tout ce que le peuple doit figurer dans le gouvernement des femmes, des hommes et des femmes, vraiment légitimes, qui sont écoutés. C'est comme dans certains, quand on n'a pas un mandat politique ou une base dans certains pays, on ne rentre pas dans le gouvernement. Ou si en tant que membre du gouvernement, on postule à un mandat législatif qu'on ne gagne pas, on vous sort du gouvernement. C'est parce que c'est aussi cela, un ministre, tu dois aussi avoir une légitimité.
Au-delà des querelles politiques, il y a une vraie grogne sociale au Mali. C'est ce que nous dit Alexis Calambri, vice-président de la Maison de la Presse du Mali.
Comment faire face aux problèmes d'électricité, disons faire face aux gens qui perdent les revenus avec la pandémie du Covid-19, comment régler la question des syndicats, ainsi de suite. Ça, c'est un problème global. Le malaise actuel est réel, palpable. Donc, il faut une prise en main globale. Il faut plus de solidarité, quel que soit le gouvernement, mais il faut vraiment qu'il y ait de façon lisible les priorités qui soient dégagées et qui soient adressées.
Le président Ibeka, qui n'avait pas fait d'apparition publique depuis que les appels à sa démission ont été lancés le 5 juin 2020, a reçu hier en audience les leaders religieux, les membres de la société civile, les représentants des familles fondatrices de Bamako, plusieurs autres personnalités. C'était en présence du Premier ministre Dr Boubou Cissé, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les manifestations contre le racisme se sont poursuivies ce week-end dans plusieurs grandes villes du pays. Ici à Washington, des membres de la diaspora africaine ont manifesté ce dimanche soir dans le centre de la capitale fédérale. Ces manifestants d'origine africaine étaient plusieurs centaines. Cheikh Kero a recueilli quelques réactions.
Je m'appelle Jean-Pierre Wapelema, je suis de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, je participe à ce rassemblement qui a amené des Africains de plusieurs nationalités pour soutenir le Black Lives Matter. Il faut qu'on sache que nous sommes tous des Africains, puisque les Américains noirs sont aussi des Africains, et que la vie des Noirs a une valeur parce que toutes les vies ont une valeur. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a un système. La mort de George Floyd a ouvert une porte qui permet de voir certaines injustices qui persistent aux États-Unis depuis plus de 400 ans. Et en dépit que des lois ont été votées, ces lois ne sont pas respectées. La Constitution n'est pas respectée. Parce qu'il y a un système, un racisme institutionnalisé qui fait que le noir n'arrive pas à éclore dans la société américaine.
C'est un événement qui frappe toute la communauté noire et qui unit aussi la communauté américaine et la communauté africaine. Donc on a ici pour supporter.
Nous sommes venus pour supporter le mouvement, c'est important. Les Africains et les Africains américains, c'est important de nous voir ensemble, que nous sommes ensemble, nous sommes là pour vraiment supporter. Voilà, nous sommes ensemble.
Vous avez eu des expériences de racisme aux États-Unis ici?
Plusieurs fois. Cette année, j'ai eu facilement plus de 5 fois. Plus de 5 fois, j'ai été arrêté juste par mon look. C'est un phénomène qui est très commun ici.
Moi, j'ai grandi ici en Amérique, en fait. Et en tout cas, comme je dis, nous sommes là pour supporter le mouvement. Donc voilà.
Bon, moi, je m'appelle Abdul Keïta. Je suis aux États-Unis, ça fait presque 30 ans. Et je suis venu dans le but d'étudier. Moi, je suis du Bamako. Black Lives Matter, ça ne concerne pas un groupe social, dire que c'est les Américains noirs ou les Africains ou les Caribéens. C'est la peau noire qui est concernée partout dans le monde. On peut avoir des différences de langage, de culture, de toutes sortes de choses, mais la couleur noire, on est des mêmes.
Je suis Petita Koundali Krabé, je viens de la Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, d'abord quand on dit American, African, on sait d'où ils viennent. L'origine, c'est l'Afrique. Et nous sommes arrivés aujourd'hui en tant qu'Africains de nos pays respectifs pour chercher une vie meilleure aux États-Unis. On a eu des enfants, donc on se sent aussi le devoir de leur venir en support quand il y a des décès subis comme ça, en direct du monde entier. Vraiment, ça affecte émotionnellement, nul ne peut s'asseoir. Même si nous n'étions pas des Africains, nous allions supporter quand même le pays qui nous accueille.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edressa Sedulia et de Michel Joseph.